Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors Noël, c'est passé, mais c'est toute la semaine, c'est toujours Noël. À la radio, c'est un peu un marronnier, Noël au cinéma. Le sujet est maintes fois traité en 2019. Victor Loupan, vous avez réuni pour en parler Marie-Noël Tranchant, Bernard Médioni et Dominique Borde. Cette année, on remet ça, mais avec des bandes-sons, avec des extraits ou simplement les bandes-annonces. Nous commençons, si vous le voulez bien, par La vie est belle. Frank Capra, c'est un classique, c'est le premier film produit par Liberty Film. C'est l'ange Clarence montre que Georges est un brave garçon. Georges Bellet est obligé de garder un rang social. C'est romanesque, c'est fantastique, la solidarité jusqu'à l'émotion, on écoute.
Une immense valise. Je n'en veux pas une pour une seule nuit. Je veux une valise qui soit assez grande pour mille et une nuits. Avec beaucoup de place pour les étiquettes d'Italie, de Bagdad, de Samarcande. Je la veux immense, Joe, comme ça. Bonsoir, Violette.
Bonsoir, quel
plaisir. Merci longtemps.
Georges.
Hi-haw, tous les vieux amis sont
Bernard,
là.
Allez, rends-moi un service pour vieux Georges.
Oui, lequel?
Tu te rappelles ma petite sœur Madeleine?
Oui, ah oui, maman t'appelle Bernard, ne m'appelle pas.
Tu t'appelles pas? Danse avec elle, veux-tu?
Oh, moi, oh, que ce que tu me demandes, j'ai suffisamment à faire avec
Georges. Ça nous donne le ton, Dominique.
Oui. Ah ben, oui, c'est un film merveilleux. Il faut signaler que ce film, qui est devenu un grand classique, a été un échec à sa sortie, parce que les gens n'ont pas accepté, peut-être, la pénétration du fantastique dans une comédie sociale, en fait, ou une tragicomédie sociale. Hein. Maintenant, c'est un des films, pour la petite histoire, qui est le plus souvent diffusé à la télévision américaine avec Le Magicien d'Oz. Mm-hmm. Donc on a besoin de rêver, et ce rêve, maintenant, il a traversé les années, et c'est un des films préférés aussi de James Stewart. C'était.
Bon, donc c'est à voir. Oui. Marie-Noël.
Oui, c'est plus qu'une fantaisie, une fantaisie métaphysique avec un arrière-plan quand même très sombre et des thèmes extrêmement profonds comme le salut, le désespoir, à quoi on sert sur Terre, est-ce que sa vie, est-ce que la vie, est-ce que sa vie vaut la peine d'être vécue. C'est très...
D'autant qu'il y a le méchant Monsieur Potter qui ne voit que l'argent.
Oui, oui, oui. Hein, et lui, Georges... qui a toujours agi généreusement, il pense n'avoir rien fait.
Il est pétri de faiblesse.
Il est tout perdu et privé de sens.
Oui.
Et c'est cet ange qui va commencer par lui rendre du sens, qui est chargé de le sauver. Et il va commencer par cet acte extraordinaire, l'ange se jette à l'eau. Et c'est Georges qui est obligé de le sauver. Ça, c'est une trouvaille magnifique. On est dans la communion des saints. Il y a des thèmes extrêmement profonds sous des allures de fantaisie. Et c'est un film merveilleux, oui.
Bernard.
Oui, je serai à l'unisson avec mes camarades. C'est un film tendre, drôle, intelligent, qui nous montre en plus quelle est notre utilité. Parce qu'on pourrait dire, mais finalement, à quoi servons-nous? Et ce film apporte une réponse, d'ailleurs avec aussi l'image de la collectivité qui est si importante dans les films de Georges Capra, et on le voit dans la dernière partie du film. Une petite anecdote, Donna Reed, qui est le personnage féminin, va revenir sur le devant de la scène près de 40 ans plus tard dans la série Dallas, puisque pendant quelques épisodes elle interprétera la mère de JR en remplaçant Barbara Belguedes. Mais sinon, vraiment, La vie est belle, ça fait partie de ces bijoux de comédie. C'est sans doute un diamant 24 Capra, en l'occurrence.
Oh, merci. Vous avez remarqué qu'on a le Charleston d'Arsenic et Vieille Dentelle qui était de Capra.
C'est Franz Capra, c'est pas Georges.
Oui,
Franck.
Oui, Franck.
Franck,
oui, Franck, Capra. Oui, oui. Nous passons à l'arbre de Noël. Vous allez voir, vous allez écouter la bande-annonce, c'est un peu désuète, mais elle nous donne d'entendre Bourville, et ça, c'est merveilleux.
C'est bête hein, de se laisser mener comme ça par un gosse. Dans le film que je viens de tourner sous la direction de Terence Young, l'arbre de Noël, j'avais un drôle de partenaire.
Ah oui?
Pascal. On en a fait de ses parties tous les deux. Il n'a que 10 ans, mais il a un talent. Presque autant que moi. Non, pardon, je voulais dire, j'ai presque autant de talent que lui. Voilà. Avec nous, il y avait William Holden. C'est quelqu'un, celui-là. Hein? Et encore Virna Lisi. Elle est jolie, hein? C'est lui qui a le bon, voilà. Regardez-le. J'aurais bien voulu le faire aussi, ça. Enfin. Nous avions d'autres partenaires. Adam et Ève, des loups. Mais oui, des loups.
Pourquoi pas?
Je suis heureux de vous parler de l'arbre de Noël. Parce que ce n'est pas un sujet courant. C'est une belle histoire qui traite d'un problème très grave, dramatique même. Mais comme dans la vie, avec des scènes qui vous feront rire, et aussi des scènes qui vous iront droit au cœur. Enfin, je l'espère. En un mot, il s'agit de... Ah, puis non, je vais pas vous raconter le scénario, ça serait gâcher votre plaisir. L'Arbre de Noël, ben, c'est un grand et beau film, tout simplement. Alors, faudra venir le voir, n'est-ce pas? Donc, à très bientôt.
Et on entend la musique de Choses interdites, qui passe derrière. C'est un très grand film, mais c'est un film où on pleure terriblement.
Alors, L'Arbre de Noël, c'est le mélo le plus classique, mais c'est certain. Et alors, là encore, j'ai un souvenir très personnel, parce que j'ai interviewé Vianna Lisi quelques années après, elle tournait un film, et elle m'a parlé, parce que c'était l'avant-avant-dernier film de Bourvil, hein, il est mort après. Elle m'a dit combien Bourvil pouvait être délicieux sur un tournage. J'étais très aimé de ses partenaires, et combien il souffrait d'un cancer des os, et quand il a tourné le film, il souffrait beaucoup. Elle m'avait raconté ça. Donc, quand on entend Bourvil, ça correspond tout à fait à ce qu'elle m'avait dit. Ou l'histoire, l'histoire d'un enfant qui est condamné à cause d'une explosion atomique. Il a subi des radiations, il est condamné à vivre quelques mois. Son père essaie de le gâter jusqu'au bout et de lui offrir ses loups qui vont accompagner ses derniers moments de vie. Alors, la scène finale, bien sûr, est bouleversante, parce qu'il meurt au pied du sapin de Noël, avec un dessin où il souhaite bonne chance à son père et à sa compagne. Alors c'est vrai que il y a toutes les ficelles, mais les ficelles, comme avait dit un jour Godard, les ficelles sont des colonnes qui soutiennent un temple. Bon, bah, c'est un petit peu de ça. Ce temple-là, il est larmoyant, mais il marche. On est bouleversé tout de même. Voilà.
Marie-Noël.
Je ne l'ai jamais vu.
La chance que vous avez, vous allez pouvoir découvrir quelque chose. Bernard.
Oui, moi je l'ai vu il y a fort longtemps à la télévision, mais j'ai quand même un souvenir assez précis du film, notamment pour la tonalité. C'est en effet un mélodrame qui ne ménage pas ses effets, mais c'est un mélodrame qui fonctionne, qui est très touchant, et avec un enfant qui va mourir, ce qui était très rare au cinéma. Il y avait eu L'Incompris de Luigi Comencini 2 ans avant, et il y aura La Mort du Nouveau-Né dans Ça n'arrive qu'aux autres de Nadine Trintignant 3 ans après, mais sinon c'est vrai que c'était très très rare au cinéma de voir cela. Et le rapport avec Bourvil est extrêmement juste. Et on peut quand même souligner la variété du travail du metteur en scène Terence Young. On oublie que c'est quand même le metteur en scène des deux premiers James Bond. James Bond contre Dr No, Bon baiser de Russie. Il fera aussi Opération Tonnerre. Il fera 3 ans après Soleil Rouge avec Alain Delon, Charles Bronson, Toshiro Mifune. Un western avec un samouraï. Et il fera un film autour de la mafia qui s'appelle Cosa Nostra avec Charles Bronson, plutôt réussi d'ailleurs, Charles Bronson et Lino Ventura. Donc il a quand même une palette très très large, et là on est dans ce mélodrame avec cette sorte de missile qui tombe dans un cours d'eau au début du film. Peut-être que ça traduit encore une peur de fin de la guerre froide, mais en fait il ne va pas rester là-dessus, et il développe cette intrigue autour de cet enfant crépusculaire, et c'est un très joli film.
Merci, nous passons maintenant Au Père Noël est une ordure. Là aussi, la bande-annonce a pris un coup de vieux, alors que le film n'a pas pris une ride. Et puis, si vous voulez un extrait, nous sommes dans la pharmacie. Le pharmacien Jacques-François soigne le Père Noël, Gérard Jugnot, qui accompagne Anémone et Thierry Lhermitte, que suit le voisin d'Europe de l'Est avec son fameux cloug, un gâteau, paraît-il, savoureux.
Monsieur, vous êtes en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards. Attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe des Bronzés.
Le cuirassé Potemkin.
Mais non, monsieur, le film très rigolo. Hein, c'est le nouveau film des Bronzés. Et son titre, c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas.
Le Père Noël est une ordure.
Vous entendez le chant des piroguiers de la rivière Arumbaya. Je traduis.
Le Père Noël est une ordure.
Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper.
Je suis au cœur de la manifestation. Vous entendez derrière moi les manifestants scander leur slogan.
Le Père Noël
est une ordure. Ça me semble bizarre, mais apparemment c'est ça. Le Père Noël est une ordure. À vous Paris.
N'approche pas de tenir.
Tu vas revenir à la maison illico, toi.
Je reviendrai jamais au clavier Charonnet.
Tu m'as préparé la bouffe pour le.
Dernière minute, une nouvelle brève tombe sur nos téléscripteurs. Je vous la donne sans commentaire. Le Père Noël est une ordure.
Avec moi.
Dernière nouvelle, le Père Noël est une odeur.
C'est un idiot, il y a une faute de frappe.
Ah oui, mais t'as raison, c'est moi qui ai mal lué. Il y a écrit, le Père Noël est une ordure.
Comme deux pigeons qui sèment à mort temps.
Félix, joyeux Noël, Félix.
Nous allons prouver aujourd'hui que le nouveau film des Bronzés, Le Père Noël est une ordure, est plus drôle car il contient plus d'agents bidonnants. Monsieur, vous êtes spectateur moyen.
Oui.
Bon, si je vous dis anémone.
Ah, elle est marrante.
Si j'ajoute Christian Clavier.
Ah, il est rigolo, lui.
Et Gérard Jugnot.
Ah, lui.
Et Josiane Balasco. Marianne Chazelle. Et Thierry Lhermitte. Et Bruno Moineau.
Arrêtez.
La preuve est faite. Le nouveau film des Bronzés réalisé par Jean-Marie Poiret, Le Père Noël est une ordure, est vraiment plus drôle.
Je vais te tuer.
Pour la première fois, le pouvoir comique d'un film est prouvé scientifiquement. Pour Le Père Noël est une ordure. Pour le film comique ordinaire.
C'est de la merde.
La preuve est faite.
Le Père Noël est une ordure, le nouveau très rigolo film des Bronzés. Non, des Bronzés, réalisé par Poiret. Jean-Marie.
Joyeux Noël, Félix.
La bande-annonce qui n'a rien à voir avec le film, mais absolument rien à voir. Je trouve ça formidable. C'est complètement décalé.
Oui, bah, le film est décalé aussi. C'est devenu un film culte.
Oui.
C'est ce qu'on appelle un film culte. Faut méfier des films cultes.
Pourquoi ?
Ben bon, parce que je suis souvent déçu. C'était une fausse que c'est comme la fameuse scène dans les Tontons Flingueurs qu'on vous repasse indéfiniment. Moi, ça me fait plus rire du tout. Mais chacun ses goûts. Hein.
Enfin, bon, la première fois que vous avez vu Le Père Noël est une ordure, vous,
non,
vous avez
pas écoulé de rire pour autant.
Ah non ?
Non, non.
D'accord.
Non, mais il y a de bons moments, c'est certain. Oui. Hein, bon, puis il y a des comédiens, il y a. Il y a une absurdité, il y a quelque chose d'iconoclaste aussi, très nettement. Or, c'est parfois drôle. Il y a des personnages excentriques, comme le voisin bulgare avec ses gâteaux complètement immangeables, le transsexuel qui est dépressif, etc. Bon, il fallait oser à l'époque montrer des personnages comme ça, au fond. Et c'est ce qui a transcendé un petit peu la comédie. Hein, le film était fait en 82, mais ça datait donc du spectacle du Splendid qui datait quelques années auparavant. Voilà, bon, oui, c'est drôle. Enfin, c'est toujours drôle, ça marche toujours. Voilà, oui.
Marie-Noël.
Oui, c'est amusant parce que c'est prendre à revers de tous les clichés sirupeux, sympathiques. Oui.
Enfin, quand Josiane Balasco est coincée dans l'ascenseur et qu'elle hurle minuterie, moi, chaque fois, ça me fait rire.
Oui, et puis c'est parfois même assez grinçant.
Oui, c'est très grinçant.
Les téléphones, les SOS, solitude et l'ermite, au bout du fil. C'est de l'humour noir.
Oui.
Ah ben, mais
ça marche.
La troupe, parce que la troupe est quand même formidable.
Oui.
Ils sont cet humour de café théâtre très très percutant. Et on sent qu'ils s'amusent.
Ils s'amusent entre eux. On le sait.
Oui.
Et ça c'est bien agréable.
Donc,
Bernard.
Non, moi je trouve ça follement drôle, au contrairement à mes camarades.
Mais non, dit que c'était. Enfin, pas pour ma part, j'ai dit que c'était très drôle, non ?
Ah oui, alors je suis déçu. Moi je trouve ça vraiment, vraiment très drôle. J'avais eu le plaisir de le voir à l'époque au cinéma. Et c'est vrai que Josiane Balasco, qui joue dans l'ascenseur un jeu électronique qui était à la mode,
Simon.
Qui s'appelait Simon,
ouais.
Exactement. Et ça faisait. Mais tout le film faisait quand même beaucoup rire dans la salle. Thierry Lhermitte dans un costume en accord avec. Le canapé, il est assorti au canapé sur lequel il se repose. La scène dans le zoo qui est ajoutée par rapport à la pièce de théâtre. Le personnage du pharmacien qui est joué par Jacques François, qui n'existe pas dans la pièce de théâtre. Monsieur Preskovic aussi, ils ont senti qu'ils avaient un potentiel comique immense. Ils ont développé le personnage et c'est vrai qu'il est encore plus drôle au cinéma qu'au théâtre. Et puis c'est un film qui ose se railler des pauvres et des marginaux. On n'oserait plus tellement vraiment faire ça maintenant, voire plus du tout. Il y a la musique de Vladimir Cosma. Je crois qu'on entend une vieille chanson qui est Rendez-vous à Pam Pam dans le film. Et puis, cet accord de groupe, de troupe, ces dialogues mordants et ces scènes qui sont restées.
Et puis, vous parlez de musique, on entend Guy Marchand dans Destinée.
Dans Destinée, absolument.
Et qui n'a pas voulu participer au film.
Oui, oui.
Mais un tel film, c'est vraiment une aubaine à ordures.
Très bien. Alors, nous passons maintenant à La Bûche de Daniel Thompson avec Emmanuel Béart, Charlotte Gainsbourg et Sabine Azéma.
Joyeux Noël ! Joyeux Noël à tous !
Cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche assortie au décor. Tout or et blanc cette année. J'en ai marre du rouge et vert.
Tu pourrais faire une bûche genre riolet, huître et pistache ? Un truc vraiment... C'est design, ça, non ?
T'arrêtes, ouais.
Non, laisse. Ta dépression au style.
Bon, on a un problème pour le 24.
Un problème pour le 24. On va changer Noël, Dominique.
Oui, ben ça, c'est pas les filles du docteur Marf. Là, c'est les trois filles de... Rappelez-moi le nom de la... Comment s'appelait-elle ?
Daniel Thompson.
Elle a perdu son mari, elle veut revoir les trois filles de son premier mariage.
Françoise Fabian.
Ça s'enchaîne. C'est-à-dire que Daniel Thompson a son fic pour faire des films chorales.
Oui.
Elle a fait le Code à Fanger, qui était lampé dans le même style. Ah, oui. Et là, c'est très réussi, parce que les trois filles, sur Sabine Azéma, Emmanuel Béart et Charlotte Gainsbourg, effanche bien, et puis il y a Claude Rich qui joue un aventurier assez sympathique, qui est le père de ses trois filles. Voilà, oui, c'est drôle, c'est bien orchestré, parce que c'est toujours du beau travail hein, chez Daniel Thompson, qui a travaillé avec son fils Christopher Thompson pour le film.
Oui, qui est très bien.
Ça s'emboîte bien, voilà. C'est du cinéma encore assez cohérent et qui rime à quelque chose, voilà.
Oui, parce qu'il y a un fait de la psychologie.
Il y a de la psychologie, il y a des scènes.
Et puis, c'est chaleureux. C'est il y a une atmosphère
C'est faire exister des personnages très différents.
Chaleureuse, confortable, avec des...
Mais la réplique, on a un petit problème pour le 24, j'aime beaucoup. Bernard.
Oui, c'est un film très très bien écrit, en effet, par Daniel Thompson et son fils Christopher Thompson, qui joue fort bien également dans le film. C'est un film d'acteurs beaucoup ici, Sabine Azéma, Emmanuel Béart, Charlotte Gainsbourg et les deux parents, Françoise Fabian et Claude Rich. Et elle a quand même une audace, c'est de mettre des monologues face caméra. Et ça, c'est vrai qu'au cinéma, on l'a assez peu vu. Et j'ai un regret, c'est que le repas de Noël, on ne le voit pas finalement à la fin. Et il y a une ellipse, et ça, c'est vrai que je suis resté un petit peu sur ma faim, mais néanmoins, c'est le cas de le dire, c'est très soigné, c'est très raffiné, c'est vraiment une bûche racée.
Merci. Joyeux Noël maintenant, film poignant de 2005, si je ne m'abuse, avec sa musique envoûtante. Vous vous en souvenez ?
Oui.
Est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé ?
Shame on you, Cole.
Ça s'appelle haute trahison. C'est l'opinion publique apprend ça. Participer à des actes pareils avec l'ennemi, alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment.
Le pays ? Mais qu'est-ce qui sait le pays ? Sur ce qu'on souffre ici ? Je vais vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron.
Alors, je me suis zurück an die Front. Ich möchte heute Abend für die Kameraden singen. Ganz besonders heute Abend.
Mon lieutenant, il se passe quelque chose de bizarre en face.
C'est quoi ce bordel? Juste qu'ils peuvent venir foutre.
Ils ont peut-être marre les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre.
Donne-moi une bouteille de champagne, mon cœur.
Hein ?
ce soir, des hommes que tout oppose ont eu envie de se rassembler, comme on se rapproche d'un feu en plein hiver. Peut-être pour oublier un peu la guerre.
Et ça partait d'une histoire vraie. Hein.
Oui, ça partait exactement. Ça part d'un film.
Et c'était, oui. C'était un film absolument formidable.
Mais alors, moi, je ne suis pas d'accord du tout.
C'est vrai?
Non, pas du tout. Ça part en effet d'un fait authentique. Dans les tranchées de 14, les Français et les Allemands fraternisent le soir de Noël. C'est-à-dire le cœur et la paix l'emportent sur le conflit. Voilà, sous l'uniforme, il y a des hommes, il y a un cœur, etc., etc. J'aime pas trop les bons sentiments au cinéma quand il n'y a que ça. Et là, ça transpire un peu trop. Carion n'est pas un grand metteur en scène, faut dire ce qui est. Il a été au plus près. L'histoire et les bons sentiments, moi, je trouvais ça un peu naïf, avec une mise en scène assez simpliste. Ça m'a pas emballé du tout, même si la bonne idée tout de même de prendre des personnages différents en les montrant dans ce conflit et dans cette situation-là.
Marie-Noëlle ?
Je suis d'accord avec Dominique, c'est une question de dosage pour moi. Après, oui, c'est vrai que la mise en scène est académique, mais c'est vrai que l'épisode, cet épisode historique, est tellement, moi je ne l'avais jamais vu raconté.
Incroyable.
Et je l'ai découvert, c'est impossible de ne pas être emporté par l'émotion. Ah oui. Parce qu'il y a là quelque chose de formidable.
De bouleversant.
De formidable, vraiment en pleine guerre, tout à coup surmonté. Cette hostilité
et l'apparition des arbres de Noël au-dessus de la la tranchée,
ce qu'on a pour accomplir ce qu'on a appelé donc les fraternisations et que d'autres ont qualifié de haute trahison,
bien sûr,
de trahison. Donc c'est quand même magnifique.
Bernard, voilà,
il fallait que ça soit raconté.
Oui.
Oui, moi je suis assez d'accord avec Dominique. Je trouve que c'est un film qui pêche par lourdeur. Et je trouve même que c'est assez pataud. Alors qu'en effet, le sujet est beau en toile de fond. Mais c'est très appuyé. Les acteurs ne ménagent pas leurs efforts, que ce soit Diane Kruger ou Guillaume Canet. Mais pour autant, la pâte est tellement lourde que finalement, il faudrait quelque chose. Alors que vous avez par exemple cette cantatrice qui pourrait apporter une grâce, une finesse au film, et ce n'est pas vraiment le cas, tout est trop, c'est un peu un tir-larme, mais un tir-larme qui échoue à mi-chemin. Cette lourdeur, finalement, c'est un petit peu une arête dans la trachée, plutôt dans la tranchée, devrais-je dire.
Merci, nous passons à l'assassinat du Père Noël de Christian Jacques avec le magnifique Harry Bohr, nous sommes en 1941. C'est un de vos films cultes, celui-là.
Oh non, pas culte. Non, pas à ce point-là. En 41, en plus, j'étais pas né, tout de même, vous le rappelez. Non, pas culte, mais c'est un film, il faut dire que c'est le premier film qui a été produit par la Continentale, et c'était l'un des derniers films d'Harry Bohr, qui a été arrêté sous l'occupation, comme juif, etc. Donc c'est un film qui porte aussi une certaine dramatisation, une dramatisation bien réelle.
C'est un film effrayant.
Et oui, effrayant. Alors, il y a une atmosphère. C'est un film d'atmosphère, parce qu'il y a un suspense. C'est tiré d'un roman de Pierre Véry, très important, parce qu'il a souvent inspiré le cinéma, comme un grand patron de Diffiampi ou choses comme ça. C'est un auteur qui a souvent inspiré. Il y a un suspense, parce que quelqu'un qui remplace le Père Noël est retrouvé assassiné, mais c'est pas celui qu'on croit. Donc, ça rebondit. C'est tourné en Savoie, je crois. Sous la neige, il y a une atmosphère. Il y a Raymond Rouleau qui joue un personnage de baron un peu mystérieux, un peu curieux, un peu à double fond. Il y a des personnages étranges. Et puis le personnage qui est joué par Harry Bohr, qui est le père Cornus, qui collectionne et qui fabrique des, des maps mondes, des ronds, qui finit par les offrir à des enfants. Donc c'est un film d'atmosphère et qui est très curieux parce que justement il y a une notion fantastique qui rentre un petit peu dans un suspense inattendu, disons.
Sur quelques secondes de générique, Bernard, vous avez quelque chose à rajouter ?
Moi, je n'en ai vu qu'un fragment, mais en effet, c'est produit par la funeste Continental, et d'ailleurs, qui avait produit le Corbeau de Clouseau.
Oui, après,
et
oui.
on retrouve plusieurs interprètes du Corbeau de Clouseau dans ce film. Et Harry Bore est mort quelques semaines après les tortures qu'il a subies, infligées par les nazis. Il a été l'un des plus grands Jean Valjean du cinéma, par ailleurs.
Merci à vous trois, Marie-Noëlle Demi et Bernard. Merci Alexis Duménil, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique. Nous vous souhaitons à tous une jolie période de Noël et nous nous retrouverons en 2024. Alors prenez soin de vous, des autres, ça va être une grande année et je vous embrasse.
Ah, on est juste...